L'homme invente en permanence, et ce depuis la nuit des temps, et notre capacité de création semble aujourd'hui de plus en plus valorisée, et ce bien au-delà des domaines purement artistiques. Reste à savoir ce qui favorise et stimule la créativité chez chacun d'entre nous. La psychologie comme l'étude du cerveau ont des réponses à nous donner pour comprendre comment émergent les idées les plus originales. C'est le dossier donc de la tête au carré dans un instant, avec vos messages et vos questions à nos invités que je vous présente dans un instant. Franceinter.fr pour nous rejoindre. Et bien sûr, le mot-clé, l'attaque sur les réseaux. Les bactéries intestinales n'en finissent pas de livrer leurs secrets. Une nouvelle découverte à la une de la science. Aujourd'hui, Axel Villard, bonjour.
Et oui, Mathieu, les bactéries de l'intestin seraient capables d'induire la faim et la satiété selon qu'elles ont besoin d'être nourries ou non. On reçoit deux des chercheurs qui ont découvert ce mécanisme dans un instant pour la une.
Et Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Quels sont les ressorts de la créativité? C'est donc le dossier dans un instant avec mes invités. Maud Besançon en studio avec moi. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Vous êtes psychologue. Et puis Catherine Thomas-Antérion. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes neurologue et vous êtes en duplex des studios de France Inter à Lyon. Maud Besançon, qu'est-ce qui favorise le plus la créativité chez un enfant? On va beaucoup en parler avec vous, hein, des plus jeunes.
Oui, alors l'important est que dès le plus jeune âge, les enfants ont un potentiel créatif. Et c'est surtout donc de leur laisser cette liberté de s'exprimer, de penser et de tester plein de choses qui va leur permettre de continuer à exprimer au mieux leur potentiel créatif jusqu'à très grand.
Oui, donc la stimulation.
La stimulation.
Catherine Thomas-Antérion, est-ce que la créativité est intimement liée à l'intelligence?
Alors, on ne peut pas résumer la créativité à l'intelligence, parce qu'il y a bien sûr plein d'autres choses, hein, le caractère, les circonstances de vie, mais d'une certaine façon, oui, à condition bien sûr de parler d'intelligence créative et pas d'intelligence intellectuelle.
Eh bien, nous ferons la nuance donc avec vous dans quelques instants pour explorer les sentiers de la créativité, avec les messages, les témoignages aussi des auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant. Et une nouvelle découverte autour des bactéries intestinales qui sont capables de réguler la faim ou la satiété, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Vous n'avez pas faim?
Non.
J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai
on peut se tutoyer?
Ouais.
C'est sympa. T'es lourd.
Mais j'ai quand même faim.
Bah ok, qu'est-ce que tu veux manger?
N'importe quoi, des gencives de porc.
Par exemple, la cité de la peur, donc pour illustrer les travaux de Sergueï Fetissov et Jonathan Breton. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis l'université de Rouen. Vous êtes les deux auteurs donc de cette étude importante publiée dans la revue Cell Métabolisme hier. Sergueï Fetissov, vous avez donc coordonné ces travaux qui ont été menés, il faut le préciser, c'est important, sur des rats. Et vous montrez donc que des bactéries de l'intestin de ces rats sont capables de réguler leur comportement alimentaire. D'abord, comment vous est venue l'idée originale qui vous a mené jusqu'à cette découverte?
Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les collègues qui ont participé à cette étude. Et en fait, pour expliquer pourquoi on l'a fait, c'est parce que chacun a un très grand nombre de bactéries dans les intestins, à peu près de 1000 milliards. Et on sait maintenant que la composition de ces bactéries est différente au cours de différentes maladies chroniques, par exemple l'obésité et l'anorexie. Donc, j'ai une idée de savoir si... il y a de telles différences, peut-être les bactéries pourraient communiquer à l'hôte son état nutritionnel, s'ils pourraient intervenir dans la perception de la faim et de la satiété.
Jonathan Breton, est-ce qu'on peut dire en simplifiant que quand les bactéries ont faim, nous avons faim?
Oui, nous pouvons dire ça. Nous pouvons dire aussi que, en fait, dans cette étude, hein, comme l'a dit le professeur Sergueï Fetissov, nous sommes donc intéressés à caractériser, à comprendre l'impact des bactéries commensales provenant de notre intestin sur notre comportement alimentaire. Et en effet, dans cet article, nous avons pu montrer ces résultats.
Alors justement, Jonathan Breton, vous êtes d'abord le premier auteur de ces travaux. Ces bactéries de l'intestin, finalement, on découvre leur capacité de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, je crois que Sergueï Fetissov a employé le mot, qu'elles communiquent directement avec notre cerveau pour précisément réguler la faim?
Voilà, donc c'est tout à fait ce qu'on a montré dans cet article. On a montré que les protéines des bactéries, sous certaines conditions, pouvaient communiquer avec notre organisme de deux manières différentes, au niveau local, donc directement avec l'intestin. Ces protéines vont pouvoir stimuler, activer ce gros intestin. Et à ce moment-là, sous cette activation, l'intestin va produire des signaux qui sont désormais bien connus dans la physiologie du comportement alimentaire. Ces signaux vont se retrouver dans les vaisseaux sanguins et vont pouvoir remonter au cerveau pour dire « on arrête de manger », pour entraîner un signal de satiété. Ça, c'est du point de vue local, directement au niveau intestinal, mais il y a aussi également au niveau central, où sans l'intermédiaire du côlon, les protéines bactériennes vont pouvoir activer directement la satiété au niveau du cerveau.
Sergueï Fetissov, est-ce que vos travaux peuvent s'appliquer directement à la synergie entre les bactéries de l'intestin de l'homme et son cerveau ?
Bon, oui, bien sûr. Bien qu'on a testé les bactéries de Escherichia coli chez le rat et chez la souris, ce sont les mêmes bactéries intestinales qui sont présentes chez l'homme. Donc on pense que chez l'homme, ça existe le même mécanisme impliquant les bactéries dans la signalisation de la satiété.
Comment comptez-vous utiliser ces recherches pour travailler sur l'anorexie ou la boulimie, par exemple ?
Oui, on a en fait un projet d'un start-up, une société qui est en train de lever le fond et qui va développer de nouveaux traitements de l'anorexie et le surpoids en essayant de développer des probiotiques qui vont contenir des bactéries avec des propriétés à augmenter la satiété ou à diminuer la satiété en fonction d'un effet désiré.
Jonathan Breton, explique-nous un petit peu ce que vous avez fait justement sur les rats et au bout de combien de temps finalement ces signaux des bactéries sont envoyés autour de la faim ou de la satiété ?
Alors, nous avons cultivé la bactérie commensale E. coli en lui apportant régulièrement des nutriments que l'on peut modéliser comme un repas. Et en réponse à ce repas, les bactéries vont entrer dans une phase que l'on appelle la phase exponentielle, où en fait les bactéries vont consommer les nutriments qu'on leur apporte. Et puis lorsque ce repas est terminé, et que les nutriments ne sont plus en aussi grande quantité, eh bien les bactéries vont entrer dans une phase, dans une autre phase, que l'on appelle phase stationnaire.
Et ça intervient au bout de combien de temps, justement ?
Eh bien, justement, cette phase stationnaire intervient au bout de 20 minutes. Donc, dès la 20e minute, on aura des protéines qui seront produites par les bactéries en phase stationnaire, dès la 20e minute, et qui vont pouvoir signaler à l'hôte la satiété.
Jonathan Breton, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres espèces de bactéries puissent influencer notre satiété différemment que Escherichia coli ?
Escherichia coli, pardon ? Alors oui, tout à fait, Escherichia coli. Donc en fait, dans notre étude, nous avons montré qu'une toute petite partie des protéines produites en phase exponentielle, donc lorsque les bactéries consomment les nutriments, donc pendant la phase repas, entre guillemets, eh bien ces protéines pouvaient dire « j'ai faim » et donc envoyer un message qui peut stimuler l'appétit. Mais lorsque l'on prend la totalité de ces protéines, ce qui est le cas d'un point de vue physiologique, eh bien on ne retrouve pas cette stimulation de la prise alimentaire. En revanche, on est tout à fait en droit de penser que d'autres bactéries, autres que E. coli, peuvent produire des signaux qui vont véritablement stimuler la prise alimentaire.
Sergueï Fetissov, la satiété chez l'homme d'ailleurs, on dit souvent qu'après avoir mangé, on peut attendre un petit peu et qu'au bout d'une vingtaine de minutes, justement, on ressent ce sentiment de satiété. Finalement, c'est cette découverte des bactéries qui confirme un peu ce qu'on nous disait déjà auparavant ?
Oui, tout à fait. Maintenant, on a une explication par les bactéries, pourquoi on ne va pas percevoir la satiété avant 20 minutes.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il faut bien manger pendant 20 minutes et après 20 minutes, on peut laisser les bactéries faire leur travail et procurer de la satiété.
À partir de quand vous pourriez commencer à tester justement vos recherches sur l'homme ?
Chez l'homme, peut-être d'ici quelques années, d'abord il faut qu'on fasse des études sur les modèles d'animaux de l'obésité, par exemple.
Mmh. Donc vous allez continuer sur le rat, c'est vraiment votre animal modèle pour ces recherches ?
Oui, on travaille chez le rat, mais aussi chez les souris. Il y a des modèles bien établis de l'obésité et surpoids chez la souris.
Mmh. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas Sergueï Fetissov et Jonathan Breton, publication donc importante, toujours autour des bactéries, c'était hier dans la revue Cell Métabolisme, et merci d'être passé par la une de la science depuis Rouen. Merci beaucoup à tous les deux, bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une première mondiale pour une fusée d'une start-up d'Amazon qui a réussi à se poser en douceur à la verticale après un vol suborbital non habité. C'était lundi aux États-Unis. Baptisé New Shepard, ce lanceur capable de transporter 6 personnes a rallumé son unique moteur à 1500 mètres d'altitude pour freiner sa distance qui atteignait 7000 km/h. Une prouesse technologique qui permettrait de considérablement réduire les coûts pour l'industrie aérospatiale. L'ancêtre direct des girafes s'appelle le Samotherium majeur et se révèle être une étrange créature. Son cou mesurait 1 mètre de long, soit la moitié de celui des girafes actuelles. Il était également étirable, c'est ce qu'indiquent les premières analyses des os fossilisés de cette espèce qui vivait en Eurasie il y a 7 millions d'années. Comme les girafes, il pouvait donc accéder aux hautes feuilles des arbres ainsi qu'aux herbes basses. La forme particulière de certains os a également permis aux chercheurs de renforcer la parenté présumée entre l'okapi et la girafe actuelle. Et vous pouvez voir une représentation du Somatérium sur le Facebook de la Tête au Carré. Et puis pour terminer, une vidéo, celle de la parade nuptiale rythmée des cordons bleus pour se séduire l'un l'autre. Le mâle et la femelle de cette espèce d'oiseau ne font pas que chanter, ils dansent aussi. Mais pour le voir, il faut une caméra qui filme à très haute vitesse. Les mâles cordons bleus effectuent des pas de claquettes, en effet, qui durent chacun 20 millisecondes. Si ces pas sont bien sûr invisibles à l'œil nu, eh bien vous pourrez néanmoins les retrouver filmés au ralenti, là aussi sur notre Facebook et sur notre compte Twitter. Allez, la créativité, c'est au cœur du dossier de la Tête au Carré dans un instant avec vos messages et vos témoignages. Franceinter.fr, bon après-midi.
Je mets le vernis, je l'enlève, je le mets le vernis. Je l'étale et après je l'essuie. C'est pas mal, je sais pas si c'est joli. Et les cheveux, je les tresse, je les lisse, mes cheveux. Je les dresse, je les plisse un petit peu. Ou je les laisse, je sais pas si c'est mieux. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose, réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Oh, et le phare, sur ma peau, sur mon front, au hasard. Il en faut, mais pas trop, trop de phare. Non, pas trop, sinon ça fait bizarre. C'est du ricile que je dois mettre sur mes yeux, sur mes cils. Mais peut-être pas les deux, je suis débile. Oui, peut-être c'est affreux le ricile. Si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Franchement, t'es pas marrant. Non, t'es jamais content. Tu me dis jamais que je suis bien. Franchement, t'es pas marrant. Depuis le temps que je t'attends, moi j'ai plus l'air de rien. Bon, les cheveux, c'est du noir, c'est du blond, c'est du bleu. Je veux savoir si c'est long, si c'est peu. Je veux savoir si c'est le bon nœud. Je suis belle en rimmel, ou je suis pâle, ou je suis folle, je suis laquelle. Tout est flou derrière mon maquillage. En dessous, je ne vois plus mon visage. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez. Allez.
Vernis et Célus.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
et la créativité aujourd'hui, dossier de l'émission avec mes invités Maude Besançon et Catherine Thomas-Antérion. Maude Besançon, vous êtes psychologue et maître de conférence en psychologie différentielle à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Qu'est-ce que c'est que la psychologie différentielle?
On s'intéresse aux différences entre les individus et surtout à comment est-ce qu'on peut évaluer justement certains concepts liés à la psychologie, donc notamment la créativité, l'intelligence, etc.
Et vous avez publié La créativité de l'enfant, c'est aux éditions Mardaga. Catherine Thomas-Antérion, vous êtes donc en duplex de Lyon avec nous, vous êtes neurologue et docteur en psychologie. Comment on étudie la créativité dans le cerveau, justement?
Alors, il y a différentes manières de faire. On peut étudier des artistes, voir comment ils composent une œuvre, travailler sur leurs brouillons, voir à partir de ces brouillons si on peut identifier des processus cognitifs que l'on connaît, comme l'imagination, l'image mentale, la résolution de problèmes, etc. Ou on peut, en neurologie, s'intéresser à des patients qui ne créaient pas jusque-là et qui se mettent à révéler un nouveau talent de créativité au hasard d'une lésion ou d'une maladie cérébrale. Oui. C'est un exemple, il y a plein d'autres manières.
Et vous allez directement dans le cerveau des personnes pour étudier la créativité ?
Alors, on peut faire de l'imagerie cérébrale si on a des patients qui ont des lésions à objectiver, si on veut s'intéresser aux réseaux qui sous-tendent la créativité. Mais on peut aussi s'intéresser à leur production, de la même manière qu'on s'intéressera dans notre pratique aux résultats à un test. Eh bien, on va regarder, par exemple, comment dessine un sujet et comment il arrive à élaborer une solution créative pour résoudre telle ou telle intuition qu'il a pu avoir.
Ce sont des travaux dont on va parler justement avec vous au cours de l'émission. Les messages, les témoignages des auditeurs sur le site de la Tête au Carré pour évoquer donc non seulement la psychologie et les neurosciences qui vont pouvoir nous éclairer sur ce processus créatif. Qui est créatif? Comment est-ce qu'on peut créer? Et quelles sont les caractéristiques de ce cerveau? Maude Besançon, qu'est-ce que la créativité tout simplement? Et est-ce que seuls les artistes ou les génies en sont pourvus?
Alors la créativité, on la définit comme la capacité à produire quelque chose de nouveau, d'original, ouais. Et également d'adapter aux contraintes, au contexte dans lequel ça s'exprime. Donc heureusement que seuls les génies ne sont pas créatifs, mais tout un chacun peut l'être. En psychologie, on distingue quatre formes de créativité. Donc l'immunicé, où tout un chacun dans sa période d'apprentissage, mais on apprend tous les jours en fait, est amené à faire des petits essais, enfin voilà, donc depuis tout petit jusqu'à très grand, donc les enfants.
Donc on a classifié la créativité, c'est ça, au fond?
Oui, on a classifié en quatre grandes formes de créativité. Après, on a les mini-C, les petits C. Donc là, les petits C, c'est un peu plus réfléchi, il y a vraiment... oui, c'est un peu plus réfléchi, mais c'est souvent également chez les enfants, les adolescents. On arrive chez les procès ensuite, et là, il faut avoir un minimum de connaissances, donc dans un domaine particulier, on a souvent un impact dans notre domaine de recherche, par exemple, mais également, ça peut être effectivement dans le domaine littéraire. Et enfin, les grands C, les big C.
Oui.
Et là, c'est les imminents créateurs, ceux qu'on connaît tous, qui ont eu un impact sur l'ensemble de la société. Donc, par exemple, en psychologie, on a Freud, qui est un grand créateur.
Ouais. Et là, justement, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que la créativité, on pourrait la valoriser ailleurs que dans certains domaines totalement évidents comme l'art?
Exactement. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous a ce potentiel en lui et peut être développé donc dans différents domaines, comme les mathématiques, par exemple, les sciences. Et si on ne sape pas trop notre créativité, enfin voilà, les différents processus à l'œuvre pour exprimer sa créativité, eh bien, on aurait des gens un peu plus créatifs dans notre société.
Ouais. Est-ce qu'il faut produire absolument pour être qualifié justement de créatif, ou est-ce que l'imagination seule peut nous caractériser comme étant quelqu'un de créatif?
Alors l'imagination...
Avoir une idée, une simple idée, ça suffit?
Ah, une simple idée, déjà, c'est bien.
C'est pas mal.
Exactement, ouais. C'est le début de la créativité, l'imagination est importante, je dirais que c'est la première pierre. Après, effectivement, pour arriver à terme, on attend vraiment une production, donc un produit fini. Mais l'idée, c'est déjà la première étape.
Ouais. Catherine Thomas-Antérion, justement, pour arriver à cette première idée et pour arriver à produire, il y a tout un processus qui se met en place. Et là aussi, vous avez pu le caractériser avec différentes phases?
Alors, on admet qu'il y a différentes phases, évidemment, de l'artiste jusqu'au petit créateur que nous pouvons être. Il y a d'abord la phase d'inspiration. Pour commencer à avoir une idée, il faut déjà avoir une inspiration. Ensuite, il y a la phase d'intuition. On va se poser une question, on va vouloir la résoudre, que ce soit scientifiquement ou bien un problème artistique ou un dessin qu'on a envie de faire. Ça peut prendre toutes les formes. Et après, il va s'en suivre une phase de maturation, d'assimilation. Comme a dit Maud tout à l'heure, il y a des connaissances qu'on peut éventuellement, à ce moment-là, mettre en action de façon tout à fait consciente ou pas. Il y a tout ce qu'on aura fait par la répétition, y compris pendant l'enfance, tout ce qui aura éveiller notre curiosité qui va se mettre en alerte jusqu'à ce qu'arrive la phase très importante dans la créativité qui est la phase d'illumination, c'est-à-dire ça y est, on a trouvé.
C'est le coup de génie. Et cette quoi, phase hein.
Le coup de génie. Alors le coup de génie, c'est pour les génies, voilà. Mais on peut avoir nous-mêmes, dans la petite chose à trouver, on entendait tout à l'heure l'histoire des bactéries, mais pourquoi ces messieurs ont eu cette idée, ouais. Comment ils l'ont traité, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trouvé la manière de résoudre leur affaire, voilà, c'est toute cette phase-là. L'assimilation, c'est Eureka. Et la dernière phase, c'est la fabrication. Et beaucoup d'entre nous, ma foi, vont peut-être arriver jusqu'à Eureka, mais la phase de fabrication, c'est quand même ça qui va faire souvent la différence du découvreur et de l'artiste qui ont également le savoir-faire hein, qui permet de réaliser.
Maud Besançon.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Le Eureka n'est pas suffisant et justement cette phase après de réalisation, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour arriver. J'ai eu ma super idée, mais qu'est-ce que je dois faire pour combiner les éléments pour arriver vraiment à ma solution. Ouais. C'est ce qui est souvent le plus difficile.
Catherine Thomas-Antérion, justement, ce processus-là que vous décrivez, il est plus ou moins long, j'imagine, selon les individus et les moments de la vie aussi, hein.
Il va être plus ou moins long selon les individus, selon ce qu'ils ont découvert avant, selon les périodes effectivement plus ou moins prolixes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'amont. Ce qu'on va appeler l'inspiration. Pasteur, par exemple, avait une phrase, il disait toujours on ne peut découvrir que si on a un esprit préparé. Hein, donc ça aussi, c'est très important. Et ça va accélérer le processus de l'Eureka et évidemment le savoir-faire de la fabrication. D'où l'importance, probablement, tout petit, très jeune, de ne pas fermer cette porte de l'inventivité.
Donc la phase d'incubation, elle est extrêmement importante. Là, c'est vraiment la période où les choses mûrissent tranquillement, d'ailleurs sans qu'on y pense forcément, hein, consciemment.
Tout à fait. Moi, il se trouve que je viens de terminer un travail qui va bientôt être publié avec un artiste qui m'a remis 2 ans de brouillon avant la réalisation d'une gravure. Ouais. Et c'est très intéressant de voir les allers-retours, les solutions tout à fait conscientes, raisonnées. Je sais que, je vais utiliser que, je vais refaire comme ça. Et puis, ce qui arrive petit à petit dans les planches de créativité et qui va se mêler avec le savoir, l'inconscient, les vieux souvenirs pour faire émerger la dernière solution, celle qu'on cherchait.
Maud Besançon, l'inconscient joue beaucoup dans ce processus de créativité, justement.
Alors l'inconscient
se nourrit en permanence
du vécu. Mais également, effectivement, ces périodes aussi de sommeil qui sont importantes puisqu'on connecte des choses. Le hasard, la pénicilline a été découverte par hasard, mais effectivement, le chercheur était préparé à cette découverte et donc a pu interpréter cet événement par hasard comme, c'est la pénicilline, enfin voilà.
Ouais. Catherine Thomas-Antérion, pourquoi justement le sommeil est aussi important? Beaucoup de gens en témoignent d'ailleurs, hein. Souvent on apprend mieux, on retient mieux en tout cas lorsque les choses se passent très peu de temps avant le sommeil. Comment les sciences du cerveau expliquent ça?
On sait que l'émergence de la bonne solution, effectivement, vient souvent au réveil, parce que pendant le sommeil, on a revisité une quantité de traces enfouies au hasard d'expériences plus récentes qui nous turlupinent quand on va s'endormir. Et ça permet de faire émerger le réseau de résolution de problèmes. Effectivement, on le sait tous, c'est valable pour la créativité, mais c'est valable également. J'ai perdu mes clés, je m'endors en pensant où c'est que j'ai pu les mettre et je les retrouve. Voilà.
Écoutons Daniel Picouli qui répondait en mars 2011 au Salon du Livre aux questions des lycéens sur son œuvre. Il parlait de la question justement de l'intuition, de l'inspiration et de la page blanche.
Je préfère ceux qui restent plantés devant leur page blanche, c'est pas qu'ils aiment écrire, c'est qu'ils aiment non écrire. C'est-à-dire qu'ils aiment l'angoisse que procure la page blanche. Si on a vraiment l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire le truc qui vous détruit, qui vous mange et vous ronge le ventre, sauf à aimer cette détresse-là, vaut mieux bouger les doigts. Bouger les doigts, écrire voyelle, consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, voyelle, n'importe quoi, jusqu'à temps que cette boule s'en aille et que vous produisiez quelque chose. Il faut, par rapport à ce syndrome de la page blanche, avoir beaucoup d'humilité. Ce qui fait que beaucoup n'écrivent pas, c'est leur orgueil. Ils ne veulent pas écrire, ils veulent écrire superbement bien. Ils veulent être Flaubert, ils veulent être Proust, ils veulent je ne sais pas qui. Non ! D'abord, article 1, vous ne serez jamais Proust. Donc, acceptez, j'ai donné un conseil qui va paraître bizarre, acceptez votre somptueuse médiocrité.
Voilà, Daniel Picouli qui nous libère de certaines angoisses face à la page blanche et puis qui nous propose aussi une idée, c'est-à-dire tout simplement bouger les doigts, qu'est-ce que vous en pensez, votre Besancenot,
oui,
face à une page comme ça?
Bah, bouger les doigts, essayer quelque chose, poser des mots, peut-être dessiner, croquer des petites choses, enfin, si c'est compliqué de passer par des mots, bah, des fois ça vient plus avec des dessins, des petits dessins, enfin, voilà, faire autre chose pour progressivement libérer la pensée et puis après le fil il va se dérouler tout seul.
Catherine Thomas-Antérion, ça vous parle les propos de Daniel Picouli, à la lumière justement de ce que vous avez observé, vous, sur le cheminement des artistes qui vous présentaient leurs dessins?
Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il faut cette phase de latence pour libérer la pensée. Mais on a aussi le témoignage de patients qui se mettent, eux, à produire, sans même savoir pourquoi ils produisent, de façon presque stéréotypée, répétitive, quelque chose. Où on le sait également dans le domaine artistique, par exemple avec les artistes bruts, qui parfois trouvent un petit bout de ficelle, un petit bout de carton, quelques clous, puis se mettent à fabriquer quelque chose, mais qui, petit à petit, n'est plus quelque chose, puisqu'il va aussi y avoir une intuition, un but, une assimilation, etc. Donc pour certains, probablement un vide, une relaxation pour faire émerger quelque chose, et pour d'autres, non.
Est-ce qu'on peut parler dans certains cas d'une sorte de créativité automatique ?
Oui, très probablement. De toute façon, dans la créativité, il y a beaucoup à voir avec la répétition. On met 100 fois l'ouvrage sur le métier. Et de la même manière, pour acquérir la bonne fabrication, on va, par exemple, quand on dessine ou quand on fait de la musique, dessiner des milliers, des milliards de fois avant d'arriver à faire le bon trait.
Ah, il y a beaucoup de questions pour les neurosciences et la psychologie, justement, ça tombe bien. Christophe demande sur Twitter, est-ce qu'on peut dire d'abord que l'homme a toujours été créatif ou est-ce que c'est apparu plus tard au cours de notre évolution? Et est-ce qu'on peut situer l'ère de la création dans notre cerveau? Peut-être Catherine Thomas-Antérion pour commencer à répondre et puis Maud Besançon ensuite.
Alors, pour la plupart des chercheurs, la créativité, c'est très ancien. Hein. C'est Néandertal, on peignait sur les murs avec certainement une intention non seulement esthétique, mais puissante derrière. Des chercheurs comme Jean-Pierre Changeux font apparaître là une émergence très probablement spirituelle et de réflexion sur notre condition et sur nos échanges culturels. Et du reste, on peut aussi quand même rapprocher ça du fait qu'on sait maintenant que certains animaux ont des démarches également, des chances sociales et de créativité.
Hein, vous pensez, pensez à quoi, par exemple, oui?
Aux pigeons. Je pense aux pigeons de...
Tiens.
Alors, des pigeons de laboratoire. Hein. Les pigeons de Watanabe, qui est un très grand chercheur japonais. Et ces pigeons, on peut les entraîner en leur montrant des tableaux de Picasso. Donc, vous avez les pigeons qui apprennent les tableaux de Picasso. Ça les amuse beaucoup, enfin, on n'en sait rien. Et puis, vous avez un autre groupe de pigeons à qui on va apprendre des tableaux de Monet. Eh bien, on s'aperçoit que ces pigeons, si on leur présente pour le groupe Picasso un nouveau Picasso qu'ils n'ont pas vu l'identifier immédiatement, pour les pigeons qui ont travaillé Monet, on leur montre un nouveau Monet, ils l'identifient immédiatement et ces pigeons respectifs savent très bien trier les Picasso et les Monet.
Ah ben, dites
donc.
Quelle surprise ! La créativité du pigeon, alors là.
Il y a une littérature énorme, énorme.
C'est vrai.
On sait aussi que les animaux peuvent choisir des couleurs pour les parades amoureuses. Bon, peut-être couleurs excitantes, etc., etc. Puis avec ce qu'ils ont dans leur environnement, mais ils font pas n'importe quoi. Hein. Ils font des figures particulières et des formes particulières. Donc ça dépasse bien notre humanité. Pour répondre à la première question.
Oui. Alors l'ère, oui. La seconde, c'était sur l'ère de la création dans le cerveau. Alors est-ce qu'il y a une géographie précise de cette zone ?
Alors, on peut pas raisonner en aire, c'est-à-dire en région d'intérêt pur. C'est des grands réseaux, des grands circuits qui vont réunir tout ce qui sous-tend la création. Mais enfin, si on veut vraiment identifier un endroit stratégique, c'est quand même une partie du lobe frontal, qui est le lobe fronto-dorsal latéral, où il va s'organiser des éléments importants des fonctions exécutives, notamment la résolution de problèmes et la pensée divergente.
Allez, on se retrouve dans un instant ensemble. Beaucoup de messages, des témoignages, des auditeurs. Je vous les transmets dans quelques secondes. In concrete, got you walking to a place you know.
You gonna meet your maker with it, as you know. Late night creature go a-walking with a head hung low. All her features are a-talking, but she don't know, she don't know. She don't know, she don't know. I said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. He don't see no revelation in her jeans, but she don't know. 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 How easy it is to make a dollar when a man gon' give you his wages just to make him scream and holler, holler with a number left in the pages.
He gonna call you in the book.
She don't know. She don't know. Said she don't know.
À la transformation de mon époque. Je l'ai fait avec des vêtements, ce qui est sûrement moins important que la musique, l'architecture, la peinture et bien d'autres arts. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait.
On dit que Lucienne, sa mère, habillait son fils comme un petit dandy, ce qui lui valait des coups à l'école, Laurence Bénaïm.
C'est vrai que Mathieu Saint-Laurent n'était pas un petit garçon comme tout le monde, au sens où j'avais parlé, je m'étais même entretenue avec son... J'avais retrouvé son professeur de dessin au lycée La Mauricière, et il avait créé un blanc d'argent, une couleur qui n'existait pas. Et que, bon, peut-être aujourd'hui, on parle de dandy, on dit qu'il était un peu mieux habillé, peu importe. Yves Mathieu Saint-Laurent était déjà différent, il était déjà en lui, Yves Saint-Laurent, celui qu'il allait devenir.
Voilà, extrait d'une émission de France Culture, les mardis des auteurs, c'était en 2010, pour avoir un éclairage sur le personnage, la personnalité d'Yves Saint-Laurent, Maud Besançon et Catherine Thomas-Antérion, pour parler donc de la créativité. Évidemment, l'environnement social, familial, joue énormément sur nos capacités, ensuite, Maud Besançon, à créer quelque chose.
Oui, alors notre environnement familial... Tous les auteurs ne sont pas d'accord. Certains considèrent qu'il faut justement avoir un environnement plutôt défavorisé pour être plus créatif, ce qui ressortait un petit peu au départ de l'interview. Et à l'inverse, d'autres considèrent que non, c'est plutôt un environnement positif. Donc voilà, donc les deux se contrecarrent un petit peu. Mm-hmm. En tout cas, au niveau de l'environnement familial, ce qui sort des recherches que le laboratoire a menées, c'est qu'il faut un environnement qui permette, enfin qui donne un cadre, puisque le cadre est important, puisque dans la créativité, on a des contraintes, mais également dans ce cadre, qu'on puisse avoir de la liberté. Donc laisser quand même un minimum de liberté à l'enfant pour bouger et faire des choses différentes.
Mais la stimulation, elle vient de l'environnement.
La stimulation vient effectivement de l'environnement, de ce qu'on propose à l'enfant, aller voir des expositions, même ce qu'on propose à la maison, avoir des feutres, avoir un espace de liberté pour s'exprimer à travers le dessin, à travers la musique. mais pas forcément des grands instruments. Hein. Faire de la musique avec une casserole et une boîte, et une cuillère enfin une cuillère et on tape dessus, ça fait de la musique. Les enfants sont très créatifs. On leur laisse peu de choses et ils arrivent à faire plein de choses.
Viron demande, est-ce qu'il y a vraiment de la place à la créativité aujourd'hui, dans notre époque matérialiste, si peu propice à la lenteur, justement? Il y a beaucoup de mails, de messages justement qui parlent de l'ennui comme étant une période très propice à la naissance d'idées créatives.
Oui, alors l'ennui est important, avoir le temps, c'est important justement par rapport à j'ai besoin d'incuber toutes ces idées pour pouvoir les produire. Mais en même temps, dans cette société justement de consommation qui va vite, les entreprises, elles sont obligées de créer de nouvelles choses. Donc elles demandent justement à leurs employés d'être créatifs. Sauf qu'on a un peu oublié de leur apprendre certaines étapes du processus qui sont importantes à mettre en œuvre. Et justement, ce processus de « je prends le temps, je m'ennuie, j'incube un peu toutes les idées qui me viennent ».
Catherine Thomas-Antérion, est-ce qu'il faut laisser un peu de répit à notre cerveau, justement, pour être un bon créateur ?
Il faut laisser un petit peu de répit à notre cerveau, mais il faut aussi sans cesse être curieux, faire fonctionner son imaginaire. Alors, c'est pas forcément quelque chose de rapide, mais je dirais qu'il faut être multitâche. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans une forêt, c'est très bien, mais il faut savoir regarder, humer, ramasser un petit caillou, penser le soir à l'omelette aux champignons qu'on va faire. Voilà. On peut faire des choses lentes, gratuites, pas productives, c'est-à-dire complètement l'antithèse généralement de nos vies ordinaires. Mais dans ces tâches-là, oui, la méditation peut être utile, mais quand même la méditation multitâche où on appelle tous nos sens à notre secours pour générer la boîte à idées.
Bruno nous dit, la créativité peut-elle être bloquée par une éducation religieuse où tout est déjà écrit, expliqué? Est-ce qu'on a noté des différences entre le cerveau des croyants et celui des athées à ce sujet? Il y a des études, Catherine Thomas-Antérion, dans ce domaine ou pas?
Il y en a probablement, mais je ne les connais pas. Je dirais que on sait, c'est compliqué là encore, parce qu'on sait qu'un cadre est fondamental. C'est fondamental d'avoir un cadre et de ce fait-là, d'être habitué à une certaine rigueur, répétition, frustration. Mmh. Alors on pourrait dire à ce moment-là qu'effectivement, les éducations un peu rudes judéo-chrétiennes pourraient finalement, malgré elles, hein, favoriser la libre pensée. Hein. Inversement, la libre pensée, c'est quand même une pensée, effectivement, de l'inventivité, de créer par soi-même. Donc on pourrait dire que c'est un facteur favorisant. Donc en clair, il n'y a pas de barrière et il n'y a pas de limon fertile. Tout peut donner naissance à créativité.
Héloïse nous envoie ce message. Depuis l'âge de 10 ans, j'écris mon journal intime ou des histoires. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je n'arrive plus à créer. Je ne trouve plus le temps, surtout l'ennui, justement, qui me permettrait de produire. J'ai des idées, mais je n'arrive plus à appliquer. Le travail, la famille, le ménage, ça empêche la disponibilité. C'est très difficile. Pourtant, j'essaie de trouver des processus, mais c'est compliqué. Maud de Besançon pour lui répondre.
Mais oui, je comprends. Il faudrait qu'elle se donne l'occasion d'avoir justement des plages où c'est juste pour elle, pour justement sa période de créativité, où c'est pas justement le ménage, les enfants, le travail, et qu'elle ait une heure rien que dans la semaine, enfin pour elle, pour qu'elle puisse appliquer toutes ces idées qu'elle a.
Catherine Thomas-Antérion, Pierre nous dit, notre mode de vie sédentaire, est-ce qu'il risque de diminuer notre créativité? Nos ancêtres, bien que technologiquement moins avancés, étaient-ils plus débrouillards et créatifs?
Alors là encore, c'est bien difficile de répondre. Probablement, pour la créativité pourra peut-être changer, parce qu'elle va pouvoir changer, par exemple, de médium. On va pouvoir créer, par exemple, en photographie, c'est évident. C'est évident que la photographie, la création artistique en photographie en 2015 ou 16 n'est pas la même qu'il y a un siècle. Néanmoins, le génie humain, la curiosité, l'imaginaire reste la même. C'est le moyen qui change. C'est la question qui va changer. Maud disait tout à l'heure, la définition de la créativité, c'est faire émerger une idée nouvelle au bon moment. Eh bien, le créateur actuel, il va faire émerger quelque chose de nouveau dans notre époque actuelle et qui correspond à l'époque. Ça sera ça la différence. On ne fera pas la même chose maintenant qu'à la Renaissance, mais on fera quelque chose.
Oui. Moi, de Besançon, justement, dans les facteurs cognitifs, la flexibilité, hein, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, c'est absolument essentiel.
Oui, alors tout à l'heure, Catherine parlait de la pensée divergente, hein, qui est importante, c'est-à-dire la capacité à produire de nombreuses idées à partir dans différentes directions. Et dans cette pensée divergente, l'important est également d'avoir cette flexibilité, c'est-à-dire cette capacité à switcher d'un domaine à l'autre pour élargir le champ des possibles et pour après revenir et justement connecter des idées de champs différents, tout simplement.
Catherine Thomas-Antérion, on va discuter avec vous dans un instant de la créativité observée chez des personnes qui ont subi des lésions cérébrales et puis à la fois sur des artistes et sur des novices. Ça fait l'objet de vos travaux. Il y a des questions en ce sens également. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque.
Oh, va, va, va. Ba 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 ba. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-zam. La comedy don jour, la comedy ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va 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 va. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour. Za, taradam, tadam. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, 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 va.
Et Paolo Conte à l'instant, Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête Carré sur France Inter.
Maud Besançon, psychologue, auteur de ce livre La créativité de l'enfant chez Mardaga, et Catherine Thomas Antérion, neurologue en duplex de Lyon avec nous donc pour ce dossier sur la créativité. Beaucoup de messages, Estelle qui témoigne, disant j'ai 50 ans, je suis une créatrice qui est passée pour l'instant, à côté de sa vocation, je ne suis heureuse qu'avec un pinceau, un marteau ou un crayon en main. Plus les années passent et plus du matin au soir, je pense, je crée dans ma tête. Toute ma vie, mon entourage, notamment familial, a toujours considéré mes bricolages comme un intérêt tout à fait secondaire. Mais je n'ai pas encore complètement renoncé à être, à exister enfin. Ma vie est au bout de mes doigts. Quel témoignage, hein, Maud Besançon.
Bah oui, c'est bien qu'elle puisse enfin s'exprimer pleinement. C'est souvent difficile dans l'environnement familial, la peur justement d'être créatif, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'en sortir, nos enfants? Et là, c'est bien qu'elle arrive voilà, à l'exprimer.
Ouais,
et...
Le peu d'encouragement aussi, ça a certainement été prépondérant.
Oui, bah, c'est compliqué d'avoir dans un environnement qui ne nous stimule pas, enfin qui ne va pas dans notre sens et qui va plutôt nous saper le moral en disant « mais non, mais ça ne sert à rien ce que tu fais tu vas pas t'en sortir. » Effectivement, on se dit bah effectivement, je laisse ça de côté et puis je vais trouver quelque chose où mon environnement, il va aussi me porter un petit peu. On espère le soutien de son environnement.
Cyril nous dit ceci: comment est-ce qu'on aide les cérébraux lésés à retrouver la créativité? Alors ça, c'est pour vous, Catherine Thomas-Antérion, parce que justement, vous vous êtes intéressée à la créativité chez des personnes qui ont subi des lésions cérébrales. Vous aviez quoi face à vous, des novices? comme des artistes. Vous avez pu étudier la créativité sur ces différentes personnes.
Alors, la question de l'auditeur, c'est comment on rend la créativité? Il faut déjà que les personnes aient perdu la créativité. Donc ça, c'est déjà une question qui est particulière. Mmh. Souvent, ils n'ont pas perdu la créativité. Et ces patients, ils ont perdu la joie de vivre, l'élan vital, voire des capacités, par exemple, physiques pour tenir un crayon. Donc ça va être une liste de questions difficiles. Donc moi, je me suis plutôt intéressée à des personnes qui n'avaient pas jusque-là manifesté d'appétence artistique particulière, qui n'étaient pas comme l'auditrice qu'on a entendue, des personnes qui avaient envie d'up et qui n'étaient pas passées à l'acte. C'était des gens qui n'étaient pas plus intéressés que ça, qui, suite à une maladie neurologique, notamment une patiente à laquelle je me suis beaucoup intéressée, qui avait fait une toute petite lésion du cerveau dans un tout petit endroit qui faisait moins de 5 mm de taille, qui avait constaté que quelques mois après cette lésion, elle avait eu une espèce d'envie irrépressible d'aller acheter des pinceaux, des tubes de couleurs et des toiles. Et elle s'était mise à peindre, sans bien comprendre pourquoi. Et elle s'est mise, cette personne, à peindre un tableau par jour, puis deux tableaux par jour, etc. Et quand je l'ai rencontrée pour autre chose, on a été amené à parler de ça. Elle m'a montré un book qu'elle avait fait, tellement elle était contente de cette activité qu'elle avait mise en place, où il y avait à peu près 150 tableaux. Et on s'est aperçu que 95% d'entre eux étaient d'une palette chaude. Voilà. Et après, ça a donné lieu à tout plein de commentaires et de réflexions, car cette dame s'est rendue compte à ce moment-là qu'effectivement, elle peignait ses couleurs, non pas qu'elle les aime plus que d'autres, quoique, mais surtout parce que quand elle peignait ses couleurs chaudes, elle diminuait les douleurs qu'elle ressentait au niveau de son hémicorps qui avait été lésé par la lésion dont je vous ai parlé. Comme si la création artistique, la couleur, venait au secours de sa douleur. Et on en avait déduit qu'elle avait probablement révélé une synesthésie, c'est-à-dire une association bizarre entre couleur, chaleur, froid, douleur, qu'elle avait auto-générée et qui finalement remplit encore sa vie 5 ans après cette lésion, au point qu'elle fait des expositions, qu'elle vend son travail, etc. Donc c'est il y a des choses absolument insensées.
Très étonnant. À quoi ressemblaient ces tableaux alors? Qu'est-ce qu'elle dessinait?
Alors, elle dessinait, c'était une personne qui était originaire de l'île Maurice, je peux le dire parce qu'elle m'y autorise. Donc, elle dessinait beaucoup de décors des îles, avec des personnages souvent féminins qui étaient dans des barques, qui allaient au marché, etc. C'était très inspiré de son enfance. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle maniait les juxtapositions de couleurs et de formes de façon complètement autodidacte, de façon formidable. On avait montré ça à des professeurs d'art qui eux-mêmes étaient assez estomaqués du coup de pinceau, des rapports quasiment innés entre les formes et les couleurs dans ses dessins et ses peintures.
Ça veut dire que d'une lésion, d'une pathologie neurologique, est née au fond une compétence artistique qui n'existait pas avant?
Alors, c'est toujours compliqué à dire. Peut-être qu'elle existait et que cette personne ne l'avait pas explorée. Peut-être que le fait de vivre un épisode de vie difficile révèle quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent après un événement de vie difficile que du point de vue psychodynamique, ils sont différents. Là, en l'occurrence, cette lésion étant vraiment dans une région qui est l'insula, qui est centrale pour l'organisation de la couleur, de la température et des émotions, on a quand même déduit qu'elle avait fait quelque chose dans son réseau neuronal d'importance pour la créativité qui avait généré cette créativité. Mais certainement en lien évidemment avec ce qu'elle était.
Ces patients, vous en avez vu de nombreux, Catherine Thomas-Antérion, au contraire, ils sont extrêmement rares?
Ils sont extrêmement rares. On a dit tout à l'heure, on découvre que ce pour quoi on est préparé. Ça fait d'ailleurs rire beaucoup mes collègues, mais c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns. Peut-être parce que ça m'intéressait particulièrement ou par pur hasard. Non, c'est des cas qui se publient dans la littérature et généralement que les personnes qui s'intéressent à ce type de domaine explorent en leur demandant de service de les visiter tellement ils sont peu nombreux.
Maud Besançon, est-ce qu'on peut dire que chez cette personne, il y avait comme une sorte d'inhibition qui, jusqu'à sa lésion, l'empêchait au fond de créer ou de peindre ses tableaux?
Pas forcément d'inhibition, mais effectivement, elle était intéressé par autre chose et ce potentiel était en veille, on va dire, et il a pu effectivement s'exprimer après cette lésion.
Cerise demande, est-ce que les écorchés de la vie, des personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance ou même plus tard, sont plus créatifs ou pas? Je travaille, dit-elle, dans un milieu artistique et j'ai découvert récemment que je n'étais pas arrivé à mon métier par hasard, mais en partie suite à des traumatismes dans la petite enfance.
Là encore,
difficile de généraliser.
Difficile de généraliser. Et vraiment, c'est ce que j'expliquais par rapport au niveau, enfin, à l'influence de l'environnement familial. Il y a vraiment, d'une part, des gens qui disent, bah oui, un environnement familial difficile va permettre plus de créativité, et d'autres recherches qui mettent en évidence l'inverse. Donc,
oui. Catherine Thomas-Antérion, vous le disiez tout à l'heure sur le sommaire, avec la créativité, on n'est pas seulement dans l'intelligence pure. Il faut aussi de l'interaction avec autrui, hein.
Bien sûr, et c'est certainement très en lien avec l'intelligence, les aptitudes créatives, mais aussi l'intelligence sociale. Parce que si on veut trouver une solution nouvelle qui émerge, c'est quand même quelque part pour la partager, pour la transmettre à un groupe social. C'est une des fonctions de l'art. C'est du reste pour ça que dans des régimes totalitaires, il n'y a pas de création artistique, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'émergence de solutions nouvelles et d'interaction humaine.
Larry demande s'il existe un instinct créatif, Catherine Thomas-Antérion.
Alors, instinct, c'est un terme compliqué. Il y a probablement...
quelque chose d'inné, en tout cas, voilà.
Oui, évidemment, on est fait d'inné et d'acquis. Il y a très probablement des personnes plus, je dirais plutôt plus sensibles ou plus réceptives. Qu'instinct, qui est un terme compliqué.
Maud Besançon, cette question de Françoise, les jeux créatifs sont-ils essentiels au développement cognitif des enfants? Mais jusqu'à quel âge? Est-ce que même pour les adultes, on pourrait les préconiser?
Et oui, on peut les préconiser. Il y en a différents qui permettent de développer, que ce soit les compétences plutôt artistiques, type les cartes doodle, enfin voilà, où les enfants, il y a une consigne. Et à chaque fois, ils peuvent produire quelque chose de différent, puisque c'est des cartes en fait qu'on peut effacer. Donc à un moment donné, on a la consigne qui est assez originale et assez ouverte. Et donc plusieurs solutions sont envisageables, il n'y a pas de solution juste. On peut également envisager d'autres jeux où on lance des dés. Sur ces dés, il y a uniquement des figures différentes. Et il faut inventer une histoire à partir de ces dés. Donc à un moment donné, chacun peut inventer une histoire totalement différente à partir des mêmes dés. Il y a des jeux de cartes où effectivement là aussi on est amené à créer des histoires avec des cartes différentes. Enfin, et ça marche et chez les enfants, chez les adolescents, mais même chez les adultes.
Vous avez étudié l'affaiblissement des performances créatives justement chez les enfants, c'est-à-dire qu'à chaque âge de la vie, au fond, il y a une période un peu de vide qui permet peut-être aussi cette incubation dont on parlait tout à l'heure.
Alors c'est pas forcément une période de vide, c'est vraiment un affaiblissement des performances, notamment au moment des périodes de changement scolaire. Donc par exemple du passage de la maternelle en élémentaire, et on la retrouve plutôt un peu plus tard après entre le collège et le lycée. Et puis on en a une au CM1. On connaît pas trop en fait la raison de cet affaiblissement. En tout cas pour le passage au CP, effectivement il y a un environnement scolaire beaucoup plus rigide et l'enfant est beaucoup moins libre de ses déplacements. Donc d'où cet affaiblissement. Au CM1, plusieurs possibilités, c'est justement les enfants qui ont envie de respecter des règles, d'être dans la norme, comme les amis, etc. Et autre possibilité, il y aurait également le développement d'autres compétences cognitives telles que le raisonnement, l'inhibition. Et peut-être que ça viendrait justement...
Donc c'est une place vacante pour d'autres, voilà, d'autres développements.
Pour d'autres développements.
Un dernier message de Patrice. Malheureusement, la forme est parfois un obstacle à la créativité. Passer un temps fou à l'école à étudier des règles d'exception orthographique que l'on pourrait supprimer nuit au temps non extensible de la création, qu'elle soit littéraire, scientifique ou plastique. Quel gâchis, dit-il.
Oui, mais en même temps, c'est nécessaire d'avoir les règles. Mais après, on peut justement les appliquer de manière très créative, ces règles-là.
Eh bien justement, ça s'appelle la créativité de l'enfant, évaluation et développement, que vous signez avec Todd Lubar, Maud Besançon, chez Mardaga. Et puis merci Catherine Thomas-Antérion pour vos explications et vos cas très intéressants. Depuis Lyon, vous étiez en duplex des studios de France Inter. Merci beaucoup à toutes les deux. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Dans un instant, Affaires Sensibles, thème aujourd'hui, Fabrice.
Nous revenons sur le meurtre du jeune Ilan Halimi par le gang des barbares, par Fofana à sa tête, pour une rançon et parce qu'il était juif. Les deux. Nous en parlerons avec notre invitée, Frédéric Ballan, psychologue. Elle a travaillé plus de 11 ans dans la police nationale et auprès du père d'Ilan pendant la période des négociations.